Chapitre 32. Encore un été, un automne, l'hiver pénible à ceux qui défendent contre ses rigueurs un reste de santé. Saison sans vacances, sans répit. Cardona, lorsqu'il trouva enfin un joint et qu'il écrivit à son tuteur pour lui proposer une courte visite, apprit qu'Esther, précisément, venait d'accepter une invitation en Angleterre pour toute la durée des vacances. Alors il se rencoigna, il ne bougea plus. Il sentait les barreaux d'une grille formidable s'élever entre lui et l'espérance. Il secouait encore ses barreaux, mais par opiniâtreté et en s'y contraignant. Quelque chose, tout doucement, mourait en lui. Quand le printemps revint, avec ses douteuses douceurs, ses caprices, avec son éclatement de vie, avec ses rumeurs d'eau courante, ses ciels suaves, ses fouettantes giboulées et l'âpre incertitude de toutes les promesses, Donna Brunel traversa la crise la plus intense qu'il eût connue. Son cœur bouleversé souhaitait tout et se dégoûtait de tout en une heure. Des passions, des désirs cinglants le lacéraient comme avec des fouets, puis le laissaient brisé et pantelant, inerte. Il traversa des jours absolument gris, qu'aucune lueur n'éclairait, et des jours de furieuses tempêtes où son père, ses élèves, demeuraient béants en présence d'explosions incompréhensibles. Loulou, le chéri de sa mère, l'adolescent aux boucles ingénues, l'enfant pourri de paresse, de gourmandise et de vices naissants, eut des minutes de terreur blanche dont il se moquait ensuite et qu'il mimait quand Donna, les yeux étincelants, avec des pauses de silence pour se contenir, lui précisait l'avenir réservé aux efféminés de sa sorte. Après les éclats, c'était l'extrême lassitude, les heures mortes où l'on ne comprend plus rien. Cette ardente mélancolie de la 20e année, dont toutes les jeunes âmes ont éprouvé la brûlure, était pour Donna aggravée du rongement et du frottement perpétuel d'une position fausse. Pour la 3e fois, et maintenant sans autre appel possible, Loulou rata son diplôme. Le directeur n'invita plus Donna à marcher vers d'autres horizons. Au contraire, la porte de la cage se verrouilla plus exactement. Donna se vit jour après jour collaborant à un système d'éducation qu'il réprouvait, sans pouvoir le modifier d'un atome. Il négligea ses études personnelles. Le soir, il était moralement éreinté par la lutte du jour, et d'ailleurs, son père, avec une insistance qui était maintenant d'un enfant plaintif, l'accaparait. Jules Brunel passait maintenant au lit une grande partie de ses journées. Donna, ou l'un des garçons, lui apportait ses repas dans sa chambre. Par moments, comme il arrive dans les maladies du cœur, une sorte d'exaltation s'emparait de l'homme valétudinaire qui, alors, se ranimait et parlait sans trêve avec une sorte d'éloquence. Le docteur, qui montait une fois par quinzaine, disait que l'œdème gagnait le cerveau. Jules avait un côté du corps très enflé par moments. Il traitait cela de rhumatisme et son fils le laissait dire. Son agitation réclamait continuellement le même remède, c'était la présence de Donna et ses exhortations patientes, monotones. Ah, la pauvre petite chambre en entendit des discours. Quelquefois, le garçon préféré, celui que Jules réclamait, venu pour emporter l'assiette du repas, restait pour écouter le dialogue. Donna était assis près du lit, il avait tiré la petite table et la lampe à la portée de son père. Il feuilletait un livre et tâchait de prendre quelques notes. « Je suis au bout de mon rouleau, » dit Jules Brunel un soir d'avril où la pluie cinglait les fenêtres. « Le printemps te fera du bien, » répondit son fils, qui aussitôt ferma le livre et tourna sa chaise comme le père voulait. « Mais oui, monsieur Brunel, le printemps vous fera du bien !» appuya Charles, un fidèle, un dévoué, qui aurait voulu porter tout le fardeau du jeune maître. « Le printemps fera verdir ma tombe !» prononça Jules en se soulevant pour respirer. Il ramassait ses épaules maigres à chaque souffle et au lieu de dilater sa poitrine, il la creusait, tandis que sa bouche aux lèvres bleues s'ouvrait un moment, comme celle d'un noyé. « Ah, ça me serait bien égal, allez, si je savais du moins ce que mon fils va devenir !» Il n'aura plus personne. Sa mère, il y a longtemps qu'il ne l'avait plus. Mais son père lui manquera. On n'a qu'un père après tout. Et puis, on a été longtemps séparés, nous deux. On s'était retrouvés. Pas, Donna. On s'était retrouvés. J'aurais voulu faire quelque chose pour toi. » « Tu as fait quelque chose pour moi, » dit le fils affectueusement, passant son bras derrière le gros oreiller à carreaux rouges pour le soulever et pour mieux y appuyer le pauvre dos moulu. « Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» insista Jules. « Eh bien, tu es venu ici vivre avec moi. J'aurais été tout seul. Et le soir, tu préparais la lampe, la table, mes livres. Tu m'aidais à étudier. » « Je lui aidais à étudier, » faisait Jules avec un rire tremblant, un pauvre rire qui sonnait le creux. « Tu entends ça, Charles ? Je veux bien, moi, parce que, voyez-vous, de n'avoir servi à rien qu'à mal faire et à se détruire la santé et laisser un mauvais nom, eh bien, Charles, ça ne peut guère suffire quand on est au bout. Et j'y suis au bout, il n'y a pas d'erreur. J'ai eu deux ou trois bons moments quand j'étais jeune et un peu fou comme on est. Après ça, des embêtements, et puis mon fils qui me donnait le bon exemple. Mais, n'est-ce pas, c'est à rebours cet arrangement-là. Et crac, le fossé. J'aurais bien voulu vivre encore deux ou trois ans. Écoutez-moi cette pluie. Charles, tu diras aux autres garçons que je leur fais dire de bien écouter leur maître et puis de le ménager. Il n'a pas trop bonne mine. Quand mon fils sera dans les hautes sphères, il y sera quand il voudra. C'est toi, Charles, qui te montera le coup de pouvoir dire que tu l'as eu pour instituteur dans ta jeunesse. Moi, j'avais du bon aussi. Beaucoup de bon. Mais pas ça de chance. » Il se mit à disserter sur la chance, puis il dit qu'il avait soif. Donna envoya Charles à la cuisine pour chercher de l'eau chaude. « Tu es toujours plein d'esprit, » fit Jules, par petites saccades haletantes. « Il m'ôtait l'air, ce long garçon. Il me tirait le souffle rien qu'en me regardant. Quel travail pour respirer! On n'y pense pas quand on est jeune. Je voudrais m'asseoir. Souviens-toi que je t'ai toujours dit que tu étais un bon fils. » « Non, » fit Donna, hochant la tête, « je n'ai pas été un bon fils. Pas toujours. Mais à présent, écoute, père, nous nous aimons bien tous deux, n'est-ce pas ?» Jules Brunel le regardait avec des yeux vagues qui, tout à coup, s'éclaircirent. Il fit un signe de tête, puis subitement, il se souleva et tendit un bras. « Tiens, voilà Rose !» dit-il d'un ton de surprise, sans émoi, comme lorsqu'on rencontre une figure connue dans un chemin. Donna se pencha sur lui, vit ses yeux devenir larges et fixes, le sentit tomber sur le bras dont il entourait. C'était le dernier souffle, c'était fini. Le lendemain, Jacques Mestral arrivait et Donna se cramponnait à lui. Il n'éprouvait qu'une vaste lassitude et il aurait voulu souffrir davantage, d'une façon lancinante, profonde, aiguë, comme on doit souffrir, pensait-il, quand on vient de perdre son père. La veille de l'enterrement, qui eut lieu le troisième jour, Donna était seule dans la petite chambre, près du lit vide. Le cercueil était posé sur deux tréteaux. Le visage rigide du mort et les mains croisées faisaient deux taches pâles dans le cadre obscur. L'après-midi finissant laissait couler sa lueur grise à travers les rideaux collés aux vitres. Clarisse entra doucement. Elle vint à Donna et lui dit à demi-voix « Ne restez pas si tard dans cette chambre, il fait froid. Cette journée est tout ce qui me reste, » murmura Donna. « Oui, et après vous vous souviendrez, vous avez été un bon fils. » Donna secoua la tête. Clarisse dit encore « Vous êtes libéré. » Et il trouva ce mot déplacé, là, près du mort. Mais elle poursuivit « Vous ne serez plus bien longtemps dans cette maison que vous détestez. Moi aussi, je la déteste. » « Pourquoi y restez-vous » demanda-t-il sans grand intérêt. Clarisse baissa encore la voix et dit « J'ai ma mère. Ma mère est tout ce que j'aime. » « Oui, je comprends, » fit Donna. « Je voulais vous dire cela, » reprit-elle. « Il y a des choses que je blâme autant que vous, et pourtant j'y participe. À cause de ma mère, je supporte, je suis complice. Je ne peux rien changer. vous ne savez pas tout. Je vous plains, fit Donna. Il lui savait gré d'avoir pour un instant levé le masque et laissé voir son vrai visage souffrant. Pendant ce temps, Jacques parlait avec le directeur et ne perdait pas une minute, pas un pouce de terrain. « Possible ou non possible, disait-il, mon ami prendra du repos. Ça n'a pas de nom, une exploitation telle que vous la pratiquez. Il s'y est soumis, parfaitement, mais il n'a plus aucune raison pour s'y soumettre. Je l'emmène demain après l'enterrement. Vous dites ? Oui, je devine bien ce que vous dites. Mais vous avez là un fils qui se destine à l'enseignement, assure-t-on. Il fera ses premières armes en remplaçant votre instituteur. Je n'avais aucune intention de discuter avec vous. Je ne discute pas, je vous préviens. Mon ami prend un congé à partir de demain. » « Tu es d'accord, n'est-ce pas ? » fit Jacques quand il exposa l'ultimatum à son ami. « Ah, j'y donne les deux mains. Trop heureux de partir avec toi. J'irai voir la chère tante Inès et Nemo. Et puis, tu sais, me voilà majeur. Il est temps que j'aille remercier mon tuteur. J'ai beaucoup de choses à lui dire, » fit Donna avec une vibration subite dans la voix. Comme le temps passe, s'exclama Émer Jean-Richard en considérant le jeune homme assis près de lui, un coude sur l'établi de régleur, dans le cabinet aux boiseries grises où rien n'avait changé. « Il me semble, à moi, que je n'ai pas bougé de ma place, et toi, te voilà un homme. Te voilà majeur, émancipé, tout seul aussi, » ajouta l'horloger avec quelque hésitation. « Seul, oui. Et vous croirez cela impossible, mais je regrette mon père. » fit Donna, regardant son tuteur bien en face, d'un air où il y avait comme un rien de défi. « Allons, tant mieux alors, » fit Émer. « Cela prouve que ton père avait changé. »« J'avais besoin de changer aussi, » persista Donna. « Je te l'accorde, vivre, c'est apprendre, » prononça sentencieusement M. Jean-Richard. Donna laissait errer ses yeux sur les vitrines de papillons, sur les estampes familières, mais comme ce décor était vide, comme il lui disait peu de choses sans Esther. Il prêtait l'oreille au bruit léger de la chambre voisine, où Madame Jean-Richard s'affairait, après un accueil bref, de cette bienveillance désagréable dont elle avait le secret. Personne n'avait encore prononcé le nom d'Esther, et M. Jean-Richard multipliait ses questions. « Tu n'es pas trop mécontent de ta place, tu étudies toujours ?»« C'est bien, c'est parfait. Enfin, tu te sens dans ta voie. Resteras-tu auprès du camp ?» C'est un peu éloigné des centres, pas grande ressource pour se développer. » Tout à coup, il s'interrompit. Il tira une longue haleine, comme un homme qui va faire un grand saut. « Il faut pourtant que je te dise la nouvelle. Je tiens à te l'annoncer moi-même. Ce n'est pas encore officiel. » Il s'arrêta miséricordieux, voyant le visage de Donna devenir blanc et rigide comme une pierre. Il lui donna une minute de préparation. « Esther est fiancée, dit-il, avec Roger Létienne que tu connais. Nous en sommes très heureux. La famille est tout ce que nous pouvons désirer, même au-delà. Le jeune homme n'a pas encore fini ses études, il les mène un peu en amateur. Son père et nous aussi, nous sommes certains que la perspective du mariage, le désir d'être approuvé par Esther, lui inspireront ce zèle laborieux dont le manque est le seul point faible d'un charmant caractère. » M. Jean-Richard s'était contraint à aller jusqu'au bout, détournant les yeux d'une face bouleversée dont les traits semblaient s'effacer, se fondre en une image nouvelle, à peine reconnaissable. Après un court intervalle de silence, Donna se leva, se dirigea vers la porte. « Comment, dit M. Jean-Richard, tu pars déjà ? Ne veux-tu pas voir Esther ? Elle va rentrer à l'instant. » Donna sentait que s'il avait desserré seulement les lèvres, il aurait sangloté. L'horrible souffrance du moment le refaisait homme primitif, celui qui ne sait point cacher sa souffrance sous une attitude de convention, celui qui va se terrer comme un animal et qui, tout seul, crie sa peine et regarde sa blessure saigner. Donna ne put que secouer la tête et sans même voir qu'Hébert Jean-Richard le suivait, sans écouter les petites phrases émues où il s'excusait presque, il s'en alla. « Esther est libre d'épouser qui elle veut, n'est-ce pas ? » dit-il à Jacques en lui communiquant la nouvelle. Et ce fut tout. Il s'en alla à la buissonne où tante Inès le retint autant qu'elle put. Il travailla au champ pour dépenser la force physique qui était en lui, pour s'éreinter et acheter le sommeil à ce prix. Il n'aimait que la compagnie de Jacques ou la solitude. Il se mouvait dans un brouillard d'impressions confuses, toutes douloureuses, et chaque mouvement lui faisait mal. Dans son cœur et dans sa mémoire, il ne trouvait qu'un seul refuge de douceur, le souvenir de son père, et continuellement, il y revenait comme au miracle permanent. L'aurait-il cru 4 ans auparavant, quand il haïssait au fond de son âme l'homme intempestif, encombrant, vulgaire et vantard, son fléau et sa honte, quand il s'exerçait à le supporter, mais qu'il détestait même son apparence extérieure, sa moustache surtout? Aurait-il cru possible l'éclosion d'un sentiment filial? Et voilà qu'en 4 ans, le miracle s'était fait. Sans doute, la mort efface bien des choses. Mais Donna, en se scrutant, pensait « Je l'ai aimé vivant, je n'ai pas eu seulement pitié de lui, mort. » Presque le dernier mot qu'il avait dit à son père l'attestait. « Nous nous aimions bien, nous deux, n'est-ce pas ?» Alors, quand on porte en soi la preuve d'une transformation extraordinaire, on reprend confiance en la vie. On se dit que d'autres merveilles, aussi grandes, sont encore cachées dans l'avenir. Tel fut l'héritage que Jules Brunel, le pauvre air qui avait gâché sa vie, laissa derrière lui pour construire une autre vie. Tant est mystérieux et inextricable le réseau de solidarité qui nous enveloppe et dans lequel court et va et revient l'éternelle sève des générations. Enfant de commune, Donna émancipée ne l'était plus. Mais il était toujours, et bien autrement et plus profondément qu'il ne l'aurait cru, le fils de son père. Il était avec tendresse et compassion, il ne méprisait plus, il jugeait moins. Il était même reconnaissant pour ses 4 années, et l'évolution accomplie lui paraissait un trésor acquis. Toute sa vie, il pourrait se souvenir de son père avec tendresse. Pauvre père, avait-il à s'étousser, et sans se plaindre, avec philosophie. Le soir, il préparait la table, les livres et la lampe. Rien qu'à ce petit souvenir-là, le cœur de Donna se serrait. Ils avaient eu de bonnes soirées ensemble. Sans doute, l'amour filial d'Esther ou de Roger Lestienne, pour un père distingué, intelligent et bon, devait être d'une autre essence, une essence supérieure. Mais du moins, songeait Donna, ce coin-là n'est plus vide. J'ai connu mon père et je l'ai aimé. Personne ne peut m'ôter cela. Et si on me l'avait prédit, un certain jour, il y a 4 ans, j'aurais dit « Vous êtes fou, il y a des choses qui ne peuvent se faire. » Quant à Esther, il pensait bien qu'il ne se consolerait jamais de l'avoir perdue. Assis avec Jacques Mestral sous les sapins où ils avaient tenu leur grande conversation d'autrefois, ils causaient par petites phrases interrompues et, sans se le dire, craignant d'être trop poétique, ils voyaient une grande parabole dans les lignes fuyantes des collines qui entraînaient leurs yeux jusqu'aux horizons noyés dans l'infini. L'infini, ce qu'on ne voit pas, ce dont on s'approche. Au premier plan, la pente semée de blocs, hérissée de gentiane. Puis une crête qui s'interpose, la première barrière. Et la vallée qu'on devine, le mystère déjà. Puis des chaînes et d'autres chaînes, belles et indistinctes, bleues et couleurs de perles, vaporeuses, s'effaçant enfin comme la dernière vibration d'un cristal. Le vallon de l'enfance, les pentes et les sommets de la première jeunesse étaient franchis. L'ombre violette de la vallée profonde, où l'on s'attarde, les retenait encore, tristes, à cause de tout ce qu'ils laissaient derrière eux, à cause de l'inconnu désert qu'ils allaient peupler de leurs efforts et des créations nouvelles de leur volonté. « Tiens !» faisait Donna tourner vers son ami. « De tout ce que j'ai souhaité ou voulu, rien ne s'est réalisé. La seule chose précieuse qui me reste, d'avoir aimé mon père, cela, je ne l'ai ni désiré, ni même entrevu. Cela ne te paraît-il pas extraordinaire ? Ah ! Dit Jacques d'un ton songeur, je trouve, moi, que tout ce qui arrive est extraordinaire. Je trouve la vie, la mienne, la tienne, toute vie enfin, très intéressante. Oui, que nous arrivera-t-il encore ? Dit Donna. Et je te dirai, jamais je n'ai espéré vraiment qu'Esther serait à moi. Je me cramponnais éperdument à souhaiter de l'espérer, si tu comprends. Pourquoi m'aurait-elle préféré ? Il n'y avait pas de raison. Il n'y a pas de raison, en somme, pour que rien d'heureux m'arrive. C'est déjà quelque chose que d'ignorer l'avenir, fit Jacques, car ainsi on peut tout espérer. Les tendres et lointaines vallées, invisibles entre les collines bleues qu'il fallait franchir encore, voilées d'inconnus, éclairées d'espérance, les appelaient, et leur cœur, jeune, déjà meurtri mais courageux, s'élançait vers le mystérieux avenir.